Dans le livre d'Ézéchiel, nous disons qu'un jugement imminent s'apprête à tomber sur la nation d'Israël. Le peuple de Dieu s'enfonce de plus en plus dans l'immoralité. Les dirigeants sont corrompus. Les prophètes et les prêtres trompent le peuple en leur annonçant des choses qui n'étaient pas de Dieu, mais qui venaient de leur propre cœur. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, ils enseignaient non seulement aux Israélites ce qui leur faisait plaisir, même si Dieu s'apprêtait à les juger pour leur conduite déplorable. Écoutez, on n'ira pas ce passage-là parce qu'il est très déprimant. C'est à peu près, je pense, Ézéchiel 13. Vous le lirez à la maison. Mais c'est le chapitre qui nous dit, j'ai jamais vu Dieu aussi déchaîné que ça pour son peuple dans Ézéchiel chapitre 13, quoi. Là, on voit, dans le chapitre 13, là, le peuple a dépassé les bornes. Il n'y a pas juste le commun des mortels qui pêche. Les hommes politiques vivent dans le péché, dans la débauche. Les prêtres qui sont censés enseigner le peuple vivent dans la débauche. Et les prophètes, en plus, eh bien, ils vont raconter des bobards au peuple, ils leur font croire des mensonges. Et là, Dieu est vraiment déchaîné, quoi. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est que le Seigneur, malgré qu'il est en colère, quoi, parce que c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu, écoutez, qui est lent à la colère. Heureusement qu'il est lent à la colère, quoi, qui est patient. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30? Ézéchiel 22, verset 30, ce matin. Pendant que vous cherchez le passage, on veut profiter de l'occasion de souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Sentez-vous vraiment à l'aise en l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ne regardez pas le bâtiment. L'Église, pour le Seigneur, c'est pas le bâtiment, c'est les personnes qui sont à l'intérieur. On est une famille et on essaie de prendre un moment le dimanche matin ensemble, en famille. Le Seigneur dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Et dans sa bonté, Dieu cherchait à accorder un sursis. Dieu donnait l'occasion au peuple de se repentir de ses mauvaises voies, mais il ne pouvait pas trouver un seul homme parmi tout le peuple pour avertir le peuple de se détourner de sa mauvaise conduite. Même si Dieu est un feu qui détruit, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a toujours usé de patience et il a toujours manifesté sa compassion qui est synonyme de son amour pour l'homme, tout au long de la Bible, avant d'exercer son jugement. Et dans cette génération corrompue et perverse dans laquelle nous vivons, il cherche encore des hommes et des femmes pour avertir les gens de se détourner de leur mauvaise voie. Dites amen à ça. Maintenant, est-ce que vous avez la certitude que Dieu vous appelle à être des avertisseurs, à être des sentinelles? Frères et sœurs, quand je lis les Écritures, le livre des Actes, quand je lis l'époque de l'apôtre Paul, eh bien, frères et sœurs, vous enlevez le 2012 et on vit exactement la même période que l'apôtre Paul. On n'est pas dans un monde post-chrétien, on est dans un monde anti-chrétien. On est dans un monde où les gens veulent rien savoir de l'Église, où les gens veulent rien savoir de Dieu. Et Dieu cherche des hommes et des femmes pour avertir ces gens, pour partager l'amour que Dieu a manifesté au monde à travers la personne de Jésus-Christ. Et ces gens-là que Dieu cherche, eh bien, c'est ceux qui font partie de son Église. Dieu a un message extraordinaire à donner à ce monde qui est perdu, à ce monde qui se cherche. Et ça, c'est à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau social, au niveau religieux. Dieu cherche encore des hommes et des femmes pour avertir les gens de se détourner de leur mauvaise voie. Et frères et sœurs, enlevez l'Église, sortez ceux qui sont à l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire ceux qui font l'Église, les chrétiens. Dieu veut que ces hommes et ces femmes s'affermissent dans ce monde qui vit sans lui. Moi, je me rappellerai toujours mon père spirituel. J'en ai parlé mercredi, je vais le raconter. Je n'avais pas tout dit. Mon père spirituel, c'est un chrétien. C'est pas marqué dans le dos qu'il est chrétien. C'est pas marqué sur son front. Mais à chaque occasion qu'il a d'affirmer qu'il est chrétien, il va le faire. Il était sous-ministre, donc un haut fonctionnaire fédéral. Et quand il avait l'occasion de pouvoir manifester, de pouvoir témoigner qu'il était chrétien. Il ne valait pas du temps à son patron sur son travail pour rendre témoignage qu'il était chrétien. Quand l'occasion lui était donnée, pour différentes situations, il rendait témoignage qu'il était chrétien. Et quand il y avait quelqu'un, un employé qui blasphémait à côté de lui le nom de Dieu, eh bien, il le reprenait, quoi. Mais il reprenait vraiment avec amour, avec douceur. Il disait, écoute, si tu veux qu'on continue à se parler, il faut que tu arrêtes de m'insulter. Je t'ai pas insulté, moi. Oui. Oui. Tu blasphèmes celui que j'adore. Tu blasphèmes celui que je loue. Tu blasphèmes le nom de celui qui est mort pour moi, qui est ressuscité, qui m'a sauvé. Hey, c'est simple de témoignage, hein? Et il se fait encore aujourd'hui, eh bien, il se fait un devoir de reprendre ceux qui blasphèment le nom de son Seigneur et de son Sauveur. Il n'y a pas besoin de se promener avec sa Bible. Quand il saute sur l'occasion, quand les gens blasphèment le nom de Dieu, il saute sur l'occasion pour leur dire, écoute, si tu veux continuer à avoir une relation avec moi, si tu veux qu'on continue à parler ensemble, tu dois changer tes paroles. Tu dois changer tes paroles. Moi, je suis intéressé à parler avec toi. Mais là, tu blasphèmes le nom de mon Dieu. Moi, écoute, je ne te manque pas de respect. Moi, j'ai le droit d'avoir la même chose. Quoi. Tu ne manques pas de respect. Il rend témoignage. Il n'y a personne qui peut l'accuser de voler du temps. De voler du temps, finalement, à son patron. Puisqu'il est lui-même, il était lui-même, là, il est maintenant retraité, il était lui-même patron d'un service. Il pouvait se permettre de reprendre ses employés à ce niveau-là, quoi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui puissent parler en son nom. Dieu demande qui enverrai-je et qui marcherait pour nous. Et alors, il s'attend à ce que quelqu'un puisse dire, comme Isaïe, Isaïe chapitre 6, verset 8, « Me voici, envoie-moi, Seigneur. » Il cherche toujours à envoyer des hommes et des femmes pour ouvrir les yeux de cette génération, pour qu'il les ramène de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, afin qu'en croyant Jésus, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et l'héritage. Et moi, j'aime bien cette phrase-là dans Actes 26, 18. Et l'héritage avec, pas les sauvés, avec les sanctifiés. Hey, wow! Hey, ça, c'est un beau mot avec les sanctifiés. Il y a un héritage qui vous attend. Vous êtes des héritiers du royaume. Tout ce que Dieu a donné à Jésus, il a donné l'univers. Vous êtes co-héritiers avec Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont sanctifiés peuvent avoir l'assurance dans leur cœur que Dieu leur est en train de leur préparer un héritage que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il s'attend à ce que les hommes et ces femmes acceptent de passer pour fous auprès d'une génération qui vit sans Dieu parce qu'ils croient en la résurrection des morts. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts à passer pour des fous ce matin pour Dieu? Qui est prêt à passer pour un fou pour Dieu ce matin? Vous pensez que j'invente? Acte 26, 24. Acte 26, 24. Tournez avec moi dans Acte 26, 24. Le petit peu de temps qu'il nous reste, on va regarder ce passage-là. Acte 26, 24. Hey, frères et sœurs, il est temps que nous, en tant que chrétiens, on puisse rendre témoignage de la foi qui nous anime, de notre espérance. Il est temps. Frères et sœurs, on se tait depuis des années de peur d'être un mauvais témoignage. On se tait et on tolère tout. Heureusement que Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas parti avec cette idée. Eh bien, moi, je ne montrerai pas sur la croix, puisque dans l'Ancien Testament, on dit « maudit sera celui qui se fait crucifier ». Maudit. Donc, moi, je ne veux pas être maudit, je ne monte pas sur la croix, je ne veux pas être un mauvais témoignage pour mon Dieu. Heureusement que Jésus n'a pas été animé de ces pensées-là. Heureusement que Jésus, ce qui le motivait, c'était de sauver, chercher ceux qui étaient perdus. Acte 26, 24, tu es fou, Paul! Tu as tant étudié que cela t'a rendu fou, Paul! Maintenant, lisez tout le chapitre et vous allez voir pourquoi on a traité Paul de fou. C'est ça qui est intéressant. Tu lis, tu tombes là-dessus, tu lis le chapitre, c'est un grand chapitre, 26, hein. Et là, tu le lis et tu dis, mais pourquoi Festus, il traite de fou? Parce que Paul prêchait la résurrection des morts. Parce que Paul croyait. Il témoignait qu'un jour, que pour lui, la mort, c'était pas la fin de tout, mais c'était le début d'une nouvelle vie, et qu'un jour, Dieu le ramènerait de la mort à la vie. Et là, Festus, il lui dit, Paul, tu divagues, t'es fou, t'as trop de choses, quoi. T'es fou. Il avait déjà dit à des gens dehors, mais il y a une vie après la mort. Ah, mais jamais personne qui est venu nous le dire. Ça vous est déjà arrivé, ça? C'est la première réaction qu'ils me disent, hein? Ah ouais. Ouais, il y a jamais personne qui est venu nous le dire. Ah, ben oui, il y a quelqu'un qui est venu. Moi, je dis toujours, ben oui, il y a quelqu'un qui est venu. Ah oui, qui? Jésus. Ah ouais, mais lui, hein? Hey. Vous lui auriez dit, non, moi, je suis revenu de la mort à la vie, regarde. J'ai existé il y a 500 ans, je suis revenu aujourd'hui, et les gens me poseraient des questions, quoi. Ça les intriguerait. Mais là, aussitôt que tu parles de Jésus, ah oui, lui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il est le début de toute chose, hein? Hein, il est le premier-né d'entre les morts, quoi. Garantissant ainsi à tous ceux qui croient en lui qu'un jour, il les ramènera aussi de la mort à la vie. Paul a été traité de fou. De fou. Parce qu'il aimait le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il croyait aux promesses de Dieu. C'est ce qu'il dit. J'espère que j'ai gardé mon... Acte 26, verset 6. « Je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. J'espère en l'accomplissement. J'ai l'espérance que ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Et ce que je prêche maintenant, c'est non seulement je vais en espérance, mais j'ai l'assurance que Jésus-Christ est ressuscité et je vis en fonction de cette résurrection. L'héritage avec les sanctifiés. Frères et sœurs, si vous êtes des sanctifiés ce matin, vous avez un héritage incroyable qui vous attend. Incroyable. Paul a été emmené dans une vision dans le ciel. Non seulement ça ne lui était pas permis de raconter ce qu'il y avait, mais il disait qu'il n'y avait pas de mots humains pour décrire ce qu'il avait vu. Vous vous imaginez? Et l'ennemi de nos âmes veut qu'on s'arrête à tout ce qui est boue dehors, quoi. À tout ce qu'on sait, nous, parce que la Bible nous dit qu'un jour Dieu va détruire, quoi. Il veut qu'on s'accroche à ça, quoi. Un fou. Tu es fou, Paul. Tu as tant étudié que cela te rend fou. Et c'est ainsi que parlent les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu au sujet de tous ceux qui pratiquent la même religion que Paul. C'est ainsi que parlent les gens du monde au sujet de tous ceux qui sont les imitateurs de Paul, comme lui-même a imité Jésus-Christ. Il est vrai qu'il y a une sorte de religion qui porte elle aussi le nom d'Église chrétienne, laquelle n'expose jamais ses membres à passer pour fous, et qui est, dit-on, capable de s'adapter au courant de pensée de ce monde, en vivant par les apparences, à travers un ensemble de formes et de pratiques extérieures. Et on peut même penser à l'attachement à la tradition, et à la tradition et système de croyances irréprochables, à une certaine dose de moralité qui vient du monde. Et pourtant, vous n'en trouverez pas beaucoup qui vont dire que pratiquer une telle religion vous a rendu fou. Mais si votre religion, frères et sœurs, elle vient du cœur, et que vous parliez de justice, que vous parliez de paix, que vous parliez de joie, ce à quoi le monde aspire présentement. Ce à quoi le monde aspire présentement. On est en train de se demander si on pas, on en parlait tantôt, si on pas en train de préparer une guerre là, dans le bout de la Syrie, du Liban. Les gens aspirent à la paix. On nous dit que le peuple français, c'est un des peuples les plus angoissés au monde. Les gens sont angoissés. Il y a des gens qui ont travaillé pour leur maison toute leur vie parce que les gouvernements sont en faillite. Ils ont perdu leur maison. En Grèce, c'est effrayant ce que les gens ont perdu. 45 ans de travail, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Les gens sont angoissés. Et on est dans ce temps où les gens crient « paix, paix, paix ». Et qu'est-ce que le texte nous dit ici? Dans Romains chapitre 4, 14, verset 13. Si vous parlez de justice, de paix, de joie que donne le Saint-Esprit, parlez-en au monde, alors il ne faudra pas vous attendre longtemps avant d'entendre quelqu'un prononcer ces paroles vous concernant. Tu es fou. Tu as trop étudié, cela t'a rendu fou. Et ce ne sera pas un compliment que les gens du monde vont vous faire ici, car pour une fois, ce qu'ils disent de vous, ils le pensent vraiment parce qu'ils croient sincèrement. Regardez verset 25, qu'il a perdu la raison, lorsqu'il dit que Dieu a versé son amour dans son cœur par le Saint-Esprit qu'il lui a donné, et que Dieu l'a rendu capable de se réjouir en Christ d'une joie si merveilleuse et si glorieuse. Car dès que quelqu'un vit pour Dieu qu'il est mort à toutes les choses qui se trouvent ici-bas, s'il garde ses yeux fixés continuellement sur celui qui est ressuscité, et qu'il marche désormais par la foi et non par la vue, alors sa position est claire et sans hésitation dira de lui qu'il est fou et que son grand savoir le fait déraisonner. Il est facile de voir que tout ce que le monde trouve comme étant fou, c'est quelqu'un qui a renoncé aux biens matériels de ce monde et qui est convaincu de la réalité de ce qu'il ne voit pas, qui persévère à s'attacher aux récompenses éternelles qui lui sont réservées dans les cieux. Ce que le monde trouve comme étant fou, c'est quelqu'un qui affirme posséder une grande joie dans son cœur parce qu'il a trouvé la faveur de Dieu et qu'il croit en la résurrection des morts. Amen. Ouais, résurrection des morts. Ah. Ouais. Quand on enterrait mon père et ma mère, mes six frères et ma sœur, ils ne comprenaient pas que je ne pleurais pas. Je savais où ils étaient. Je savais qu'ils étaient dans la présence de Dieu parce qu'ils avaient pris cette décision juste avant de mourir. Pourquoi mes frères et mes sœurs, ils pleuraient? Parce qu'ils avaient la certitude qu'ils ne les reverraient plus. Et s'ils continuaient à persévérer dans leur mauvaise voie, ils ne reverront plus jamais mes parents. Et moi, je savais que mes parents étaient maintenant entrés dans le royaume de Dieu. Et je savais que je les reverrais un jour. Moi, je les regardais, je me disais, j'ai vu assez souffrir. Une qui est morte de l'Alzheimer et l'autre qui a fait une embolie cérébrale paralysée à moitié. La deuxième embolie, c'était épouvantable à regarder. On va gigoter comme un poisson qui est sorti de son bocal, quoi, qui manque d'eau, qui manque d'air. C'est terrible de voir mon père souffrir comme ça. Moi, je le regardais, je me disais, fini de souffrir. Fini le corps de souffrir. Maintenant, il est entré dans l'éternité, dans la présence de son maître. Et il attend que Dieu le revêt d'un corps glorifié. Ouais. Ayant l'assurance qu'il est un enfant de Dieu, qu'il est aimé de Dieu, il s'estime heureux de pouvoir, lorsque l'occasion se présente, de partager sa foi et son espérance, lesquelles reposent sur Dieu, et d'annoncer la promesse que Dieu a faite. Tous ceux qui se repentent de leurs péchés, qui se convertissent, ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité, le pardon des péchés, et ils deviennent héritiers de la vie éternelle avec les sanctifiés. Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ a besoin de revenir à la croix. Frères et sœurs, honnêtement, si je vous prêche uniquement que Dieu vous aime ce matin, que Dieu est amour, alors que dans le mot amour, y compris la sainteté de Dieu, quoi. On a séparé tellement. On a compartimenté amour, sainteté, justice, joie, paix. Mais dans le mot amour, quand on dit Dieu est amour, ça veut dire que Dieu est saint. Ça sous-entend quoi? Ça veut dire la bienveillance de Dieu, que tout ce que fait Dieu, jamais c'est dans le but de faire du mal à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Le mot amour, Dieu est amour, ça inclut le mot saint. Mais dans nos églises, depuis 50 ans, on a évacué, on a amené juste le mot amour. Moi, que je vous dise, toute l'avant-midi ici, que Dieu vous aime. Continuez à vivre comme vous êtes. Dieu vous aime. C'est la résurrection qui vous attend. Mais qu'en aucun temps, je vous interpelle pour savoir sur quoi vous vous basez pour dire que vous êtes né de nouveau. Sur quoi vous vous basez pour dire que vos péchés sont pardonnés. Sur quoi vous vous basez pour dire, écoute, toi, si tu meurs aujourd'hui ou demain, tu peux comparaître devant Dieu, tu vas te présenter devant Dieu, tu as l'assurance, toi, que Dieu va t'ouvrir les portes du ciel, qui va te dire, écoute, entre, bon et fidèle serviteur, rentre dans la présence de ton maître. Vous en seriez-vous rendu spirituellement si je ne vous parlais que de l'amour de Dieu le dimanche matin et que je ne vous interpellais pas dans ces choses qui sont comprises dans les Écritures? On pense que la colère de Dieu est uniquement dans l'Ancien Testament. Tournez avec moi dans Jean. On est tellement concentré sur l'amour de Dieu qu'on oublie des passages qui sont foudroyants, quoi. Mais la Bible est claire, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que le Dieu du Nouveau Testament. C'est le même. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. La loi nous a été donnée par Moïse. Donc, Dieu avait besoin de donner la loi aux gens pour dire, écoute, voici ce qui est mal pour moi. Voici ce qui est bien pour moi. Si tu fais le bien, eh bien, tu vas hériter. Tu fais partie, tu vas marcher par la foi et tu es en espérance. Tu peux t'attendre à être ressuscité un jour et pour entrer dans le royaume de Dieu. Et tu subiras pas la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est quoi? Mais dans le jargon courant, c'est que tu seras pas jugé, tu subiras pas le jugement de Dieu, quoi. Moi, ce que je trouve d'extraordinaire, écoutez, on ne veut que parler de l'amour de Dieu. Si Jésus ne nous avait pas aimés, jamais il aurait prononcé le mot géhenne, jamais il aurait prononcé le mot enfer. Si ça avait été un menteur comme le diable qui cherche à faire croire au monde que l'enfer n'existe pas, que la géhenne n'existe pas, parce qu'il est un menteur depuis le commencement, le diable, eh bien, il nous l'aurait caché, ça. Mais quand vous lisez les Écritures, il n'y en a pas un comme Jésus qui a parlé du mot enfer et du mot génial. Et il le dit pourquoi? Parce qu'il nous aimait, il n'a pas voulu nous cacher la vérité. Il a dit, je suis le Créateur qui est fait homme, et vous avez une façon de vous conduire, je vous invite à vous conduire d'une certaine façon, et si vous vous conduisez de cette façon, eh bien, vous ne subirez pas la colère de Dieu. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus seul pour recevoir le pardon de ses péchés. C'est ce que ça veut dire. Qu'il n'y a pas d'autre moyen qu'une certitude dans son cœur qu'il ne peut pas effacer. Toutes les mauvaises choses qu'il a faites dans sa vie, autrement qu'à travers ce qui s'est accompli à la croix, celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Ah, la vie éternelle! Il n'y a pas un pécheur qui peut sauver un autre pécheur, puis il n'y a pas un pécheur qui peut mourir pour un autre pécheur. La loi de Dieu, elle est claire. Celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Moi, je trouve ça fantastique ce que Dieu fait. Écoutez, il impose pas à quelqu'un de mourir pour un autre. Il se fait homme dans la personne de Jésus-Christ. Il dit, moi, qui est sans faute, moi qui n'ai jamais péché, moi qui vous aime et que tout fait pour vous ramener à moi, eh bien, je vais me sacrifier pour vous. Et notre frère Ernest l'a dit tantôt en priant, le châtiment qu'on méritait pour nos fautes. Quand quelqu'un commet de bêtises ici en Belgique, malgré que la loi est très, très élastique aujourd'hui, quelqu'un qui tue doit s'attendre. C'est vrai qu'il n'y a plus de peine de mort en Europe. Je vais prendre les États-Unis, quoi. Aux États-Unis, quand tu commets un péché, le meurtre, eh bien, t'es condamné à la chaise électrique, t'es condamné à mort. Si tu commets des fraudes, si tu commets quelques fraudes et ainsi de suite, tu peux être condamné entre 150 et 450 années de prison, quoi. Bon. Et le Seigneur dit, écoutez, peu importe le péché que vous avez commis, que ce soit une fraude, un vol, un meurtre, un mensonge, votre péché mérite la mort. Et moi, je veux te sauver de la mort. Parce que c'est la mort physique, c'est la mort éternelle et c'est la mort spirituelle. Et moi, je veux te sauver de tout ça. Comment faire? Comment trouver un homme sur la terre qui est sans péché et qui pourrait mourir, un innocent qui pourrait mourir un coupable et prendre sur lui la sentence qui nous revient à nous tous? Mais pas sur la terre. Et Dieu nous aime tellement, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait homme dans la personne de Jésus-Christ et il dit, moi, je vais mourir pour des coupables. C'est ce que notre frère Ernest a dit tantôt dans sa prière. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qu'on méritait, eh bien, c'est lui qui l'a reçu. Et en retour, en fait, lui a reçu la colère de Dieu. Lui a reçu la colère qu'on méritait, le jugement qu'on méritait. Et en retour, qu'est-ce qu'on reçoit, nous, de Dieu? On reçoit la paix et une joie qu'on méritait pas. On est en paix avec Dieu. Et on reçoit dans notre cœur la paix de Dieu. Et c'est ce que Paul s'évertuait à dire aux gens à son époque. Et on le traitait de fou. Frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur vous demande de faire, et de le faire avec douceur, que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Nous dit Philippiens, chapitre 4, versets 5 et 6, nous dit l'apôtre Paul. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. On peut le dire, ce message-là, avec douceur, sans condamner les gens. Si Christ n'est pas venu pour condamner les gens, on n'est pas là pour condamner les gens, mais on est là pour leur dire, écoute, tu es au monde, tu es sur cette terre, est-ce que tu sais pourquoi tu vis, est-ce que tu sais qui t'a créé? Est-ce que tu sais où tu t'en vas après? C'est important. C'est important parce qu'en tant que chrétien, si les gens pensent que leur fin après la mort, c'est comme les animaux, qui sont enterrés dans un trou, qui vont pourrir et que c'est terminé, la Bible, c'est pas ce qu'elle nous dit. La Bible nous dit qu'il y a une vie après la mort. Et que l'être humain est le seul qui est amené à avoir cette vie après la mort. Pourquoi? Parce qu'il a un esprit. Et la parole nous dit dans Ecclésiaste que quand l'homme meurt, eh bien, son esprit retourne à son Créateur. Il y a une vie après la mort. Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, on a un message extraordinaire à partager. Et le Seigneur, eh bien, cherche des gens qui sont prêts à se faire traiter de fous pour transmettre ce message merveilleux qui vient de la parole. En terminant, le mot fou qui est dans le grec ici, c'est quand on le traduit en français, c'est le mot fanatique et enthousiaste. Et les mots fanatique ou enthousiaste sont utilisés à toutes les sauces par les gens d'aujourd'hui, parce qu'il y a une signification différente et même contradictoire pour eux. Certaines le prennent dans leur bon sens et ils y voient une réaction aux choses de Dieu qui amène une personne à rejeter son ancienne raison de vivre pour s'attacher et vivre pour Dieu. Par exemple, on peut dire que les prophètes de l'Ancien Testament, on peut dire que les apôtres, on peut dire que certains hommes de Dieu qui nous ont précédés, eh bien, on peut dire qu'ils étaient véritablement enthousiastes et fanatiques pour les choses de Dieu, puisqu'à certains moments, ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit et tellement sous son influence que finalement, à l'exercice de leur raison, eh bien, c'était mis de côté, c'était vraiment le Saint-Esprit qui agissait à travers eux. La plupart des gens s'accordent à dire que l'enthousiasme ou le fanatisme est quelque chose de nuisible et mauvais pour la santé, santé physique et psychologique, lorsque quelqu'un ne vit plus pour ce monde, mais pour Dieu, mais que l'enthousiasme ou le fanatisme peut faire un très grand bien à quelqu'un lorsque cela concerne le sport, la musique, les courses, la bourse, et ainsi de suite. C'est en tout cas ce que pensent très souvent ceux qui n'ont pas le temps de s'intéresser aux choses de Dieu. Quand j'étais dans la police, il y avait un garçon, il collectionnait, lui, les femmes. Et on disait, ce gars-là, il est fou des femmes. C'est un malade des femmes. C'est un fanatique des femmes. Et on riait. Aujourd'hui, moi, je suis au Seigneur, je me dis, pourquoi moi, je serais gêné qu'on me dise, écoute ça, c'est un gars, Jacques Hudon, c'est un fou de Dieu. C'est un fanatique de Dieu. Et si vous regardez sincèrement, lisez les journaux, le mot fanatique aujourd'hui, il est uniquement attaché à ceux qui pratiquent une religion, c'est-à-dire la religion du cœur, la religion de Jésus-Christ. Et comme je vous dis, le mot fou, c'est synonyme dans la Bible d'enthousiaste et de fanatique. Et frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à manifester cet enthousiasme qu'ils ont parce qu'ils vivent une relation étroite avec la personne de Jésus-Christ. Des gens qui sont prêts, entre guillemets, à se faire traiter de fous parce qu'ils vivent uniquement pour une raison. Ils vivent pour une personne. Ils vivent pour la personne de Jésus-Christ. Mais en même temps, quand on vit pour Jésus-Christ, quand son amour en nous se déverse, lorsqu'il déverse son amour en nous, eh bien, on est capable de le déverser vers les autres et de leur partager ce qui fait notre joie et ce qui fait notre paix. Amen. Amen. Paul était prêt à se faire traiter de fou pour prêcher la résurrection des morts. Et frères et sœurs, je pense que si l'Église veut s'en sortir sincèrement aujourd'hui, elle doit revenir comme à l'époque de l'Église primitive. On a besoin de gens qui sortent. Pas des gens qui attendent que les pécheurs viennent à l'Église. Les pécheurs, avec toute la mauvaise publicité qu'on fait sur les Églises, les pécheurs, ils ne viennent pas à l'Église, quoi. Ils ne viendront pas à l'Église, mais comme l'Église primitive, Dieu appelle les hommes et les femmes à sortir, et quand l'occasion se présente, de pouvoir partager ce qui fait leur joie, ce qui fait leur paix, ce qui fait leur espérance en Jésus-Christ. Comme Paul. Et si ce matin, vous n'avez pas cet enthousiasme, si vous n'avez pas ce fanatisme que Jésus veut nous donner. Vous connaissez la raison là où vous vous trouvez. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous confessez votre péché. Vous confessez ce qui est cette entrave qui vous empêche d'être enthousiaste. Et j'aimerais vous ramener dans des années antérieures, ce qui faisait l'enthousiaste quand vous avez accepté le Seigneur, au moment où vous l'avez accepté. Les gens vous reconnaissaient pas. Vous étiez né de nouveau, les gens vous reconnaissaient pas. Ça vous est déjà arrivé, les gens vous disaient, ah, ben, je t'aimais mieux quand t'étais avant. On m'a dit ça, ma famille, hein. Tous mes frères m'ont dit ça, ma sœur aussi. On t'aimait mieux comme tu étais avant. Le mouton noir de la famille m'a aimé mieux comme j'étais avant. Pourquoi? Parce que je suis une lumière dans le monde. Les frères et sœurs, on parle de paix, on parle de joie. Mais on ne parle pas d'une fausse paix, on ne parle pas d'une fausse joie. On est ici en tant qu'Église pour annoncer la vraie joie, la vraie paix qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu puisse, si ce n'est pas le cas ce matin, nous rappeler cet enthousiasme qu'on avait quand on est né de nouveau, quand on l'a rencontré pour la première fois, qu'il puisse mettre en lumière ce qui nous a enlevé cet enthousiasme, qui nous a volé cette paix, qui nous a volé cet enthousiasme, et que lorsqu'il l'a remis en lumière, eh bien qu'on puisse lui demander pardon et dire, Seigneur, rallume en moi ce feu que tu m'as donné au début quand je t'ai rencontré. Éclaire encore une fois mon cœur, comme tu l'as éclairé au tout début, quand j'ai entendu parler de toi pour la première fois, afin que d'autres aussi ne soient pas privés de la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Amen.